Nous allons poursuivre le sujet qui nous préoccupe depuis plusieurs semaines maintenant sur la vie de l'esprit. J'ai donné comme titre à ma prédication ce soir comment avoir l'assistance du Saint-Esprit. C'est une prédication parenthèse, mais qui nous permet de réaliser encore mieux pourquoi il faut être dans la vie de l'esprit. Dans le livre des Actes, au chapitre 9, et au verset 31, il nous est indiqué comment vivait l'Église primitive. Ce sont des renseignements très importants si vous voulez être utile pour le Seigneur. Actes chapitre 9, verset 31. Ce n'est pas trop froid, ça va? Merci Seigneur quand même pour le faire. Actes chapitre 9, verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Gardez la page, s'il vous plaît. Dans Actes chapitre 11, verset 21. Quel beau verset que nous allons lire. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Elle n'est pas belle cette expression? La main du Seigneur était avec eux. Voilà comment, en deux versets, nous voyons comment vivait l'Église primitive. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit assistait l'Église. Et quand vous lisez les quelques versets qui tournent autour de ces versets que nous venons de lire, vous vous rendez compte que le cœur de Dieu se réjouissait de travailler dans cette Église. Et c'est ce que nous voulons, que Dieu se réjouisse, que nous voyons que le Seigneur est satisfait de ce qui se passe dans l'Église. C'est pas ce que nous voulons, hein? C'est pas ça qui nous intéresse. Voilà, que Dieu, quand il regarde l'Assemblée de Saint-Agne ou une autre Église, dit voilà, cette Église, elle réjouit mon cœur. Ce n'est pas pour rien qu'il est dit que dans les cieux, les anges se réjouissent lorsqu'un pécheur se repent. Il y a de la joie dans le ciel. Vous comprenez bien que s'il y a de la joie dans le ciel, ça indique que le cœur de Dieu est satisfait de ce qui se passe dans l'Église. Sur la base de ce que nous venons de lire, nous en déduisons que Dieu pouvait accomplir son œuvre. Dieu a des œuvres préparées à l'avance. Ce n'est pas parce que nous avons des projets, des plans, des programmes, qu'elles correspondent au plan de Dieu. Dieu a des œuvres. Et lorsqu'une Église a l'assistance du Saint-Esprit, son œuvre avance. On peut entrer dans ce que Jésus avait dit à Pierre, « Je bâtirai mon Église ». C'est écrit, le Seigneur ajoutait à l'Église chaque jour ce qui était sauvé. Est-ce que c'est important pour vous qu'il y ait de la joie dans le ciel? Ah oui, il y a de la joie dans le ciel lorsque les pécheurs se repentent, lorsque les fils prodigues reviennent se jeter dans les bras du Seigneur dimanche après-midi. Il y a une femme qui a abandonné Dieu, qui est revenue à Dieu. Il y a dimanche passé également deux rétrogrades. J'aime pas trop le mot rétrograde, je préfère fils prodigue parce que c'est biblique. Mais quelle joie, ce sont des victoires. Il y a une dame qui nous disait, oh, là, il y a une jeune fille qui revient à lui après plusieurs années de « Qu'est-ce que vous en pensez ?» C'est une victoire. C'est une victoire. Nous nous réjouissons lorsque nous voyons des fils prodigues revenir au Seigneur. Est-ce que la personne disait « Vous êtes content ?» Non, je dis « Je ne suis pas content. » C'est une victoire. Sinon, on peut être content sans victoire. Mais quand on est victoire, quand il y a des victoires, c'est autre chose. L'Église était en paix. Vous êtes à ce verset du acte 9. C'est important quand même parce que la vie de l'esprit, il faut que ça soit présenté par des aspects très pratiques dans la vie de l'Église. Il ne faudrait pas que ça soit juste la théologie de la doctrine qui ne se concrétiserait pas dans le domaine matériel. Nous attristerions le Saint-Esprit si nous le faisions là. Il nous est dit l'Église était en paix. Pourquoi? Pourquoi l'Église était en paix? Eh bien parce que les chrétiens étaient en communion avec Dieu. Quand un chrétien est en communion avec Dieu, il est en paix avec Dieu, il est en paix avec lui-même et il est en paix avec les autres. Bon, la paix avec les autres, c'est pas toujours évident, j'en conviens. La Bible dit, soyez en paix avec les autres. Qu'est-ce qu'il ajoute? D'autant que cela dépend de vous. Il se peut que nous ne soyons pas d'accord avec tout le monde, parce que les gens n'acceptent pas notre témoignage, parce que ceci, parce que cela, mais la Bible dit, soyez en paix, d'autant que cela dépend de vous. Après, si la personne ne veut pas, elle est son affaire. Mais une chose est certaine, l'Église était en paix, ça ne veut pas dire que tout le monde était content, ça veut dire que les gens étaient vraiment dans la communion avec le Seigneur. Et quand on est en communion avec le Seigneur dans l'Église, on est en communion les uns avec les autres. S'il y a des endroits où les gens ne sont pas en communion les uns avec les autres dans une Église, c'est qu'on peut remettre en question la communion qu'ils ont avec le Seigneur. C'est facile à comprendre. Vous êtes d'accord avec moi? Quand quelqu'un est en communion avec Dieu, il va être en communion avec quelqu'un d'autre qui est en communion lui-même avec Dieu. Les gens qui servent, qui aiment Dieu, ils sont en communion les uns avec les autres. Quand il n'y a pas de communion, il n'y a pas de paix. Et quand il n'y a pas de paix, le Saint-Esprit ne peut pas agir. Vous comprenez pourquoi le diable essaie de troubler les gens, de troubler les cœurs, de nous faire perdre la paix. Parce que quand on perd la paix, on n'est pas toujours bien disposé. On peut avoir de mauvaises réactions et ça, on le paye très très cher. Dans l'Église primitive, on a lu deux versets. On voit la main de Dieu qui est avec eux, l'assistance du Saint-Esprit. On voit que le Saint-Esprit est en train de faire sa part. Pourquoi ? Eh bien parce que l'Église faisait la sienne. Vous savez quelle est la part du Saint-Esprit ? Jésus a dit, quelle est la part du Saint-Esprit ? De convaincre, de péché, de justice et de jugement. À quoi reconnaît-on une Église en bonne santé ? Eh bien, quand les pécheurs rentrent dans une Église, ils doivent être convaincus de péché. Si dans une église les pécheurs sont contents, s'ils ne sont pas du tout repris dans leur conscience, ce n'est pas du tout bon signe. Quand moi je vois des rapports, vous savez parfois, à part des journalistes, hein, puisqu'il n'y a aucune piété, qui font des comptes rendus d'un rassemblement qui s'est passé, ah les nouveaux étaient contents, tout le monde s'est bien marré, tout le monde s'est bien amusé. C'est ça l'église du Seigneur. Moi je ne vois pas du tout l'église du Seigneur maintenant. Je vois un rassemblement de gens qui sont en train de se divertir. Lorsque l'église est en bonne santé, les pécheurs sont convaincus de péché. Mais le Saint-Esprit fera toujours sa part, là où l'Église fait sa part. La part du Saint-Esprit, c'est de convaincre de péché. La part de l'Église, eh bien, c'était de marcher dans l'obéissance, dans la sainteté, dans la paix, dans la justice, dans la prière. On l'a chanté, et je ne peux pas que le chanter, chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Voilà, un chrétien, il recherche ce qui est juste. Il lit la parole de Dieu, il dit, ah, ça, c'est pas juste. Voilà. Ah, je me suis donné au Seigneur, ah, j'étais raciste, oh, qu'est-ce que j'ai lu ? Tu aimeras ton prochain. Tu accueilleras l'étranger. C'est écrit ça d'accueillir l'étranger ?
Oui.
Ah, pardon Seigneur Jésus. Pardon Seigneur Jésus. Parce que l'éducation peut avoir fait qu'on est devenu raciste. Est-ce que c'est normal ? Oui, c'est normal. Nous sommes dans un monde tellement compliqué, mais quand on se convertit, on cherche la justice. On doit savoir si ce que l'on dit, si ce que l'on fait est juste. Moi, quand je vois un chrétien raciste, je commence à me faire un souci au niveau de sa conversion. Il y a des gens qui ne sont pas convertis. On a lu tout à l'heure, beaucoup crurent et se convertirent. Il y a des gens qui croient en Dieu, mais qui ne se convertissent pas au Seigneur. Nous l'avons encore vérifié avec Jérémie la semaine dernière, une personne qui était convaincue qu'elle était convertie, et croyez-moi, quand on a vu ses réponses dans notre entretien, nous avons bien vu qu'elle n'était pas du tout convertie, mais elle croit en Dieu. Ce n'est pas parce qu'on croit qu'on est converti. Quand vous voyez l'Église primitive, vous êtes étonné, surpris, qu'elle ne comptait pas sur des moyens humains. Alors ça, mes frères et sœurs, dans le cadre de la vie de l'Esprit, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que quand on n'a pas la vie de l'Esprit, on est tout le temps en train de chercher des méthodes. Quand vous lisez le livre des Actes, vous voyez une chose, elle ne comptait sur aucun moyen humain. Cette église, elle était satisfaite de la présence du Seigneur. Est-ce que la présence du Seigneur vous suffit ? Ça, c'est une vraie question. L'église primitive se satisfaisait de la présence du Seigneur. Ah, si on va aller voir les moyens. Les moyens de l'église primitive. Actes chapitre 2. Les moyens, j'ai mis ça entre guillemets quand même. Actes chapitre 2, verset 42. Voilà les moyens de l'Église primitive. Et n'oublions pas que c'est notre modèle. Nous n'avons pas besoin, parce que nous sommes au 21e siècle, de trouver des méthodes qui vont plaire aux gens. Actes chapitre 2, verset 42. Ils persévéraient, je vois que ce soir vous faites partie de ces gens-là, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il persévérait. On le voit au verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Il y avait une telle action du Saint-Esprit, et bien que les gens, ils éprouvaient le besoin de se retrouver au temple pour prier, pour parler du Seigneur Jésus. Vous voyez, quand on lit les deux premiers chapitres du livre des Actes, qu'est-ce qu'on voit? On voit que chacun était intéressé par l'œuvre de Dieu. Chacun était intégré. Ils étaient tous ensemble. L'histoire de l'Église primitive, regardez au verset 1er du chapitre 2, commence avec cette base. Le jour de la Pentecôte, ils étaient, comment vous avez dans votre livre? Tous ensemble. Ils étaient tous ensemble. Voilà. C'était un besoin. Tout le monde se sentait concerné. Dans une Église qui a l'assistance du Saint-Esprit, on devrait amener tous les croyants à se sentir concernés par l'œuvre de Dieu. C'est l'affaire de tous, ce n'est pas l'affaire d'un pasteur, l'affaire de quelques responsables qui dirigeraient une église, non. L'œuvre de Dieu doit être à l'intérêt de chacun. Tous nous devrions nous dire, voilà, j'ai ma petite participation, j'ai ma part à faire, je dois moi aussi porter l'affaire du Seigneur. Si vous n'êtes pas intéressé par l'œuvre du Seigneur, ça va avoir du mal à faire que nous ayons l'assistance du Saint-Esprit. Ils étaient tous ensemble. On a lu acte 5, non pas acte 5, 12, on n'a pas lu. Acte 5, verset 12, vous voyez, c'est quelque chose qui ressort dans le livre des actes, c'est là, ça revient, pour que nous comprenions pourquoi ils avaient l'assistance du Saint-Esprit. Beaucoup de miracles, de prodiges se faisaient au milieu du peuple, par les mains des apôtres, ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Ils en avaient besoin. C'était important pour eux. Ils aimaient se retrouver. Vous aimez vous retrouver le dimanche matin à l'église? Est-ce que vous allez voir? On en a besoin, on ne connaît pas tout le monde, mais on le sait, on est à côté de quelqu'un. Tiens, je sais que cette personne, je ne la connais pas, mais elle doit avoir un témoignage. Elle a fait une espérance, elle aime Dieu, elle craint Dieu, elle a fait des kilomètres pour venir adorer Dieu. Bon, on est bien. On doit se retrouver tous ensemble. Chaque nouveau converti, vous le voyez, était impliqué de suite dans l'œuvre de Dieu. De suite, il s'intéressait, il s'impliquait, il partageait financièrement. Il partageait ses biens. Il y avait une telle émulation de grâce, une telle action du Saint-Esprit, que l'œuvre de Dieu se faisait toute seule. Vous avez vu, chacun donnait ses biens, etc. Ça ne veut pas dire qu'il s'est diminué de tout. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, il se retrouvait zéro. Ça serait complètement incohérent et complètement antibiblique. Mais il y avait une telle action du Saint-Esprit que les gens aimaient donner. Aujourd'hui, quand on voit dans les églises, il y a des appels d'argent tous les dimanches, il faut faire. C'est pas normal, ça. Que de temps en temps, on présente un projet, c'est intelligent. Mais que continuellement, de manière lancinante, on efface des appels d'argent parce qu'on ne peut pas payer le pasteur, parce qu'on ne peut pas payer si. Qu'on fasse des économies de bout de chandelle, qu'on soit obligé de vendre notre 4 gâteaux pour faire. Mais moi, je crois que c'est pas tout à fait ça, le coup de Dieu. Quand il y a l'assistance du Saint-Esprit, je ne crois pas qu'il y a besoin de faire beaucoup d'appels d'argent. Croyez-moi. En tous les cas, tout le monde est engagé. Vraiment engagés. Et pourquoi ils étaient engagés? Parce que les pasteurs les pressaient, non? Parce qu'ils étaient convaincus. Ils pouvaient faire attention entre provoquer, forcer l'engagement, mettre les gens sous pression, dire voilà, il faut que tout le monde trouve sa place. Ça commence à être humain, parce que c'est de l'estrade qu'on conditionne les gens. C'est pas ça. Là, les gens, ils étaient convaincus. Et je vous pose la question, est-ce que c'est un homme qui vous presse, ou est-ce que c'est Dieu qui a mis dans votre cœur une profonde conviction? Parce que c'est écrit dans Romains. On peut le lire dans Romains chapitre 14. C'est quelque chose de très sérieux. Il y a des choses que le pasteur enseigne, ça c'est important. Ils étaient enseignés. Mais moi, il y a un verset qui m'a énormément aidé au début de ma conversion avec mon épouse. Romains chapitre 14, le verset 5, la fin du verset 5, la dernière phrase du verset 5. Romains 14, verset 5. Que chacun et en son esprit une petite conviction. C'est ça? Comment vous avez-vous dans votre livre? Que chacun ait une pleine conviction. La vie avec Dieu, c'est une vie de conviction. C'est pas une vie d'à peu près. Oui, c'est bien, tiens, cette église, ah, elle est différente, ça me plaît, il n'y a pas ci, il y a ça. Non, la vie avec Dieu, ce n'est pas une vie d'appréhension, de petites mesures, c'est une vie de conviction. Ils étaient engagés parce qu'ils étaient convaincus. Voilà l'Église du Seigneur, comment elle est, et comment elle peut avoir l'assistance du Saint-Esprit. Ce n'est pas intéressant? C'est important d'avoir une conviction. Quand on fait quelque chose, on le fait par conviction. Je vous donnerai ce petit témoignage. Quand ma femme, quand on était fiancés à l'époque, quand on s'est converti ensemble à peu près, et puis notre deuxième ou troisième culte, le pasteur qui nous enseignait était très légaliste. Il était un homme de Dieu, mais il avait ce défaut, il était très légaliste. Et nous, au début, on ne savait pas si c'était la droiture, l'intégrité, la vérité, le légalisme. On mélangeait tout, on avait 15 jours de conversion, on avait besoin d'être éclairé. Et il avait dit dans la prédication, oui, ce n'est pas vraiment que les femmes se maquillent, le maquillage, c'est mondain, c'est charnel. Alors ma femme m'a sorti, elle m'a dit, qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit, écoute, ne te maquillez pas si c'est ça. Alors le lendemain, ma femme m'a fiancée. Le lendemain, on va chez ma future belle-mère, et Isabelle était toujours très, très, très habillée. Et quand on est arrivé chez ma belle-mère, ma future belle-mère regarde Isabelle et dit, t'es malade? T'es malade? Alors Isabelle, elle ne correspond pas. C'est dans ton église qu'on t'empêche de te maquiller? Alors elle n'a pas répondu. Parce que j'ai vu à sa tête qu'elle réfléchissait. Et en sortant, je me rappelle, il me dit, c'est terminé. C'est terminé. À partir d'aujourd'hui, je ferai les choses par conviction. Et pas parce qu'on me demande de les faire. Et je sais qu'on en a beaucoup parlé, on a beaucoup réfléchi, et je crois que la vie avec Dieu, c'est une question de conviction. On a besoin d'être enseigné. S'il est écrit, par exemple, soyez sobre en toutes choses, on peut en déduire que ça peut intégrer le maquillage, la façon de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça tient debout. Mais je crois qu'une église qui a l'assistance du Saint-Esprit est une église où les gens ont des convictions pleines. Ils ont une pleine conviction. Je le fais par conviction. Oui, j'ai ma place dans l'église. Je m'implique. Tiens, dans la maison de prière, j'ai ma place. Est-ce que tout le monde peut prier dans une église? Est-ce que tout le monde peut prier? Est-ce qu'un nouveau peut prier? Ou est-ce qu'il faut avoir 6 ans de conversion pour la voir? Est-ce qu'il faut bien parler le français? Est-ce que si vous bafouillez, Dieu va vous dire, ah non, non, il te faut parler bien le français si tu veux t'approcher. Mais il y a des gens qui me disent, je ne prie pas parce que je parle mal. Mais est-ce qu'il faut bien s'exprimer pour prier? Est-ce que vous jugeriez quelqu'un qui s'exprime mal? Est-ce que vous jugeriez quelqu'un? Vous voyez? Et tout ça, ça contribue, vous voyez, à mettre de la confusion. Non, dans l'église du Seigneur, il y a de la conviction. Et quand le Saint-Esprit se retire, eh bien, laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de confusion, beaucoup de doutes, et il n'y a pas d'assurance. Et il n'y a rien de plus triste qu'un chrétien qui aime Jésus et qui n'a pas d'assurance. Parce que ce qui devrait caractériser un chrétien, c'est qu'il est plein d'assurance. Oui ou non? Avec le Dieu qu'on a, moi je trouve qu'on peut avoir de l'assurance. Oui ou non? Hein? Une église qui n'est pas assistée par le Saint-Esprit, elle ne peut pas réjouir le cœur de Dieu. Donc, croyez-moi. Elle peut faire du bruit, elle peut avoir beaucoup d'animation, beaucoup d'activité, beaucoup d'activisme, et tout ce que vous voudrez. Une église qui n'est pas assistée par le Saint-Esprit, elle ne peut pas réjouir, elle ne peut plus réjouir le cœur de Dieu. Alors qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Aujourd'hui, 7 février 2012, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez voir? Notre sœur Natacha a prié tout à l'heure, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. C'est bien ça que vous avez dit dans votre prière? Voilà. Est-ce que c'est votre désir? Est-ce que ça tient debout de vouloir voir la gloire de Dieu? Oui? On le chante, Dieu, nous voulons voir ta gloire. Mais est-ce que vous pensez un instant, après avoir fait 2 mois d'études sur la vie du Saint-Esprit, est-ce que vous penseriez un instant qu'on pourrait voir la gloire de Dieu sans l'assistance du Saint-Esprit? Qui pourrait penser une ineptie pareille? C'est impossible. N'importe quelle méthode. Nous aurions-nous la méthode la plus sophistiquée, la méthode la plus la supérieure? Nous aurions même dans l'église milliardaire qui nous proposerait de louer le zénith 3 fois par mois à 10 000 euros chaque fois. Si on n'a pas l'assistance du Saint-Esprit, ça sera pour rien. Croyez-moi. On entend des fois où il faudrait davantage d'argent. Non, non, non. Il ne faut pas davantage d'argent pour voir l'œuvre de Dieu prospérer. Il faut davantage du Saint-Esprit. Croyez-moi. Toutes les méthodes sans l'assistance du Saint-Esprit seront toutes vouées à l'échec. Croyez-moi. En tous les cas, une chose est sûre, ce que Dieu a fait dans le livre des Actes, il veut le refaire. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qui s'est passé à Jérusalem, ce qui s'est passé en Samarie, en Galilée, ce qui s'est passé dans bien d'autres endroits et ce qui se passe dans certains endroits, Dieu veut le refaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir l'assistance du Saint-Esprit, ce qui explique le titre que j'ai donné? Une des choses qu'il ne faut surtout pas faire, c'est ne pas l'attrister. Éphésiens chapitre 4, verset 30, l'explique bien. Éphésiens chapitre 4, verset 30. S'il y a bien quelque chose sur laquelle il faut veiller, est-ce que mon comportement réjouit le cœur de Dieu ou est-ce que mon comportement l'attriste? Croyez-moi, beaucoup de chrétiens sont tellement aveuglés qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils attristent le Saint-Esprit. Alors voyez, ils veulent la vie de l'Esprit, ils veulent l'assistance du Saint-Esprit et ils font exactement l'inverse. Donc, quelle folie! Éphésiens chapitre 4, verset 30. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Et au verset 31, vous avez quelques comportements qui expliquent comment on attriste le Saint-Esprit. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Voyez ? Voilà ce qui peut se passer lorsque quelqu'un attriste le Saint-Esprit. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'attrister le Saint-Esprit? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ben oui, on va pas jouer les hypocrites en plus. Hein? Ça nous est arrivé. Par contre, nous avons dit les choses que nous n'aurions pas dû dire, nous avons réagi, nous n'avons pas bien réagi, etc. Mais pour cela, il faut demander pardon. Comment retrouvons-nous l'assistance du Saint-Esprit? Comment retrouvons-nous la joie du Saint-Esprit? Eh bien, en vivant le verset 32. Le verset 31 nous dit ce qu'il ne faut pas faire, et le verset 32 qu'on n'a pas lu nous dit ce qu'il faut faire. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Comment il faut pardonner? Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Vous avez vu comment Dieu vous a pardonné au calvaire? Comment il a accepté la crucifixion? Voilà comment Dieu nous demande de pardonner. Que même si on nous fait du mal, eh bien il faut dire: je choisis de pardonner. L'Esprit de Dieu, il doit agir, on pourrait prendre d'autres exemples, je vois que le retour, on ne peut pas. S'il n'agit pas, c'est qu'il est attristé. Nous avons lu dans le livre des Actes 9.31 ce qui permettait au Saint-Esprit d'assister l'Église. L'Église était en paix. L'Église, c'est quelque chose sur lequel il faut absolument veiller. Et l'Église est en paix, d'autant que vous êtes en paix. Une des premières visites que j'ai pu faire lorsque j'étais jeune pasteur, ça m'a beaucoup marqué. Parce que moi, je commençais mon ministère, j'étais plein de zèle, plein d'ignorance surtout, mais plein de zèle en même temps. Et je me rappelle, j'aimais les frères, j'étais très ignorant de beaucoup de choses, mais j'avais mon cœur quand même plein d'amour pour l'Église, pour l'Assemblée, et je voyais les frères et les sœurs qui étaient impliqués dans l'Église, et je voyais qu'il y avait vraiment de l'amour dans l'Église. Et il y a une femme qui est arrivée, qui était tout le temps négative, en train de se plaindre, de râler. Je lui ai dit: oui, monsieur, il n'y a pas d'amour dans l'Église. Et je lui ai dit: mais je sais que Dieu m'a parlé. Et je lui ai dit: ma sœur, c'est pas dans l'Église, c'est pas dans l'amour. C'est dans votre cœur. Et comme il n'y a pas d'amour dans votre cœur, vous avez l'impression qu'il n'y en a pas autour de vous. Et c'est la première fois que je reprenais quelqu'un. Alors j'étais intérieurement, j'étais tout. Mais je savais qu'il me fallait lui dire. Et cette femme a beaucoup râlé pendant quelques semaines. Et puis après, elle est revenue. Elle a dit: mais vous avez raison. C'est parce que moi, je ne suis pas en paix. Quand on aime, quand on est plein d'amour, on a l'impression que tout le monde s'aime. C'est pas vrai? Et voilà. Et c'est important, mais est-ce que j'ai la paix? Parce que croyez-moi, la paix, ça ne dépend pas des autres. La paix, ça ne dépend pas des circonstances. La paix, ça dépend de notre communion avec le Seigneur. Quelles que soient les circonstances. Donc l'Église était en paix. Alors qu'est-ce qui nous est dit au fait? Bon, on a vu ce qui peut exister. Mais dans l'acte, est-ce que vous pouvez vous souvenir comment elle marchait l'Église? Elle marchait dans la crainte du Seigneur. Tiens donc. Voilà ce qui a permis au Saint-Esprit d'assister l'Église. On le relit quand même, pour ceux qui découvrent, pour ceux qui ont besoin, peut-être c'est bien de le relire. On le relit ce verset. Acte 9. C'est important, c'est comme ça d'ailleurs qu'on médite, en revenant. Acte 9, 31, l'Église était en paix. Pourtant, si vous lisez ce qui précède, c'est de la persécution. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle s'édifiait Et elle marchait, comment ? Dans la crainte du Seigneur. Alors là, mes frères et sœurs, on attaque le sujet qu'on a déjà abordé en octobre, la crainte du Seigneur. J'ai toujours été marqué par un homme dans la Bible qui était, quelques heures avant, un homme plein d'injures vis-à-vis de Dieu, plein de haine vis-à-vis de Jésus, et 6 heures après, il était plein de crainte. Est-ce que quelqu'un sait à qui je fais allusion ? Oui, au brigand sur la croix. Regardez avec moi, Matthieu 27. Qu'est-ce que c'est qui a changé en quelques heures le cœur de cet homme ? Matthieu 27. Vous y êtes ? C'est l'arrestation de Jésus, c'est le procès. Et au verset 39 du chapitre 27 de Matthieu, on voit combien les gens ont changé le fusil d'épaule, hein, eux qui chantaient quelques jours avant Hosanna, Hosanna. Vous voyez comment les gens sont influençables. Donc c'est à la crucifixion, on prend le verset 38, avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à droite, l'un à gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête. Verset 44, les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Jésus a été crucifié à 9h du matin. Regardez dans Luc, au chapitre 23. Donc, 6 heures ont passé, puisque Jésus est mort à 15h. Regardez. Verset 39, Luc 23, 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Je vous ferai remarquer qu'il n'y a aucune grossièreté dans la parole. D'accord avec moi, aucune grossièreté. Et pourtant, le Saint-Esprit dit que c'est une injure. Quand on commande à Dieu des ordres, quand on indique à Dieu ce qu'il devrait faire, quand on conteste avec Dieu, c'est une injure. D'ailleurs, il est bien écrit, malheur à l'homme qui conteste avec son Créateur. Il n'y a rien de plus déterminant et aveuglant que de demander des ordres, de donner des ordres à Dieu. Mais je ne sais pas si vous en êtes compte. Il n'y a pas de grossièreté. Un brigand, l'impie, dit voilà, parce que lui, il pensait à lui, il pensait pas à son âme, il pensait pas à l'œuvre de Dieu. Vous savez, quand on pense qu'à soi, ça frise souvent l'injure. Mais regardez, alors que le matin, cet autre brigand l'injuriait, au verset 40, il y a eu un changement. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation. Voyez cet homme. Bien sûr qu'il a passé ses 6 heures en pleine souffrance à côté de Jésus-Christ. Il a assisté à la prédication de la croix, en live, comme on dit. Il a vraiment vécu avec Jésus la prédication de la croix. Et pendant ces 6 heures, il a vu à qui il avait affaire. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il a ouvert ses yeux, il a ouvert son cœur, et la crainte de Dieu est venue dans son cœur. Et l'Église primitive vivait dans la crainte de Dieu. Et dans les églises, si nous voulons avoir l'assistance du Saint-Esprit, il faut que nous revenions au respect des choses spirituelles. Il y a trop de légèreté dans les églises. Les gens, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils sont capables de blaguer. Je disais cet après-midi à Malmar qu'il y a plein de sites chrétiens où ils ne peuvent pas s'empêcher d'avoir un petit lien, une petite fenêtre avec humour. Je ne sais pas si vous avez été sur... Mais c'est ridicule, mais c'est d'une stupidité. C'est la preuve qu'il n'y a pas la crainte de Dieu, même sur tous ces sites chrétiens. Est-ce qu'on est obligé tout le temps de faire des blagues, en plus des blagues avec la parole de Dieu ? Est-ce qu'on n'a pas assez en France de capacité à faire de l'humour sain sans utiliser les choses spirituelles ? Voyez, la crainte, c'est la première chose qui vient lorsqu'on est touché par la prédication de la croix. Lorsque quelqu'un est touché par la prédication de la croix, tout d'un coup, voyez, alors qu'il injuriait la veille, le matin, il injuriait Jésus, là, voyez, bien sûr qu'il va mourir, mais l'autre aussi, il va mourir aussi. Et la crainte de Dieu, il n'a pas choisi. C'est un choix, la crainte de Dieu. Noé a choisi. Il vivait dans une génération perverse, corrompue. La terre était remplie de méchanceté, et il nous est dit que Noé a été rempli d'une crainte respectueuse. Et l'œuvre de Dieu a pu se faire parce que Noé avait la crainte respectueuse des choses de Dieu. Ne crains-tu pas Dieu ? Tiens donc, c'est une question. Et vous, le craignez-vous ? Vous le savez, ne répondez pas vite. Vous le savez par rapport à votre attitude devant les choses. Lorsque quelqu'un sort une blague à deux balles, lorsque quelqu'un sort une blague sur Dieu, est-ce que vous riez? Ça vous fait rire. Voilà. À tous les cas, j'ai souvent jeté le froid d'un certain repas de famille lorsqu'on a raconté des blagues à deux balles. Parce que je pense qu'un chrétien, de temps en temps, il va prendre position. Vous ne croyez pas? On doit le faire avec tact, avec classe, peut-être, mais ne crains-tu pas Dieu? Mes frères et sœurs, on le voit. On est en train d'aborder le sujet le plus important qui doit être abordé. Je peux vous dire qu'en France, en ce moment, un des sujets qui est abordé, faut-il remettre la retraite à 60 ans, ça, c'est pas important. Le sujet le plus important aujourd'hui, en France, c'est voulons-nous l'assistance du Saint-Esprit? Si nous voulons l'assistance du Saint-Esprit, il faut que la crainte s'empare de chacun. Il faut que nous venions à l'église, il faut que nous rentrions à la maison tout à l'heure. La crainte de Dieu, c'est dans toutes les affaires. Quand on est sur l'autoroute, à 3h du matin, à 3h après-midi. Faites pas comme quelqu'un, ah, il n'y a pas de radar, c'est 3h du matin, je peux foncer. Je crois que la crainte de Dieu, c'est pas à 3h du matin ou à 3h après-midi, c'est tout le temps. La crainte de Dieu, c'est quand on est tous ensemble, la crainte de Dieu, c'est quand on est seul. Et à quoi reconnaît-on quelqu'un qui a la crainte de Dieu? C'est quand il est tout seul, chez lui. C'est pas vrai? Où peut-on savoir quand est-ce que nous avons vraiment la crainte de Dieu? Eh bien, quand on est tout seul devant sa télé ou devant son ordi, vous savez si vous avez la crainte de Dieu. J'exagère ou non? Voilà, vous savez. Vous savez si vous avez la crainte de Dieu, c'est pas la peine de me répondre, ça ne me regarde pas tellement. Par oui ou par non, vous savez si vous avez la crainte de Dieu. Au verset 43 du livre des Actes, chapitre 2, il est bien dit, la crainte s'emparait de chacun. Hein? On l'a lu tout ce verset, non. Acte 2, 43. C'est important, vous savez, parce qu'on va, on va conjuguer la doctrine, la théologie, le pratique, vraiment le côté le plus pratique qui soit. Vous voyez, acte 2, 43, la crainte s'emparait de chacun. Elle ne s'emparait pas des anciens ou des pasteurs, elle s'emparait de chacun. Il y avait un grand respect de la parole de Dieu. C'était pas « ouais, d'accord, le pasteur il a dit ça, oui, mais moi je pense que... » Ça, c'est pas la crainte. La crainte, Dieu l'a dit, c'est sérieux. Tu honoreras le jour du Seigneur. Est-ce que c'est important le jour du Seigneur? Est-ce que c'est important? Et déjà, il vient pas au culte de l'image, mais c'est là. C'est pas leur affaire. On est bon. En plus, ils vont taxer de légalisme l'obéissance. Oui, mais... Alors on ne peut pas. Est-ce que ça peut arriver parce que votre grand-mère est malade, il vous faut prendre soin d'elle. Bien sûr, c'est votre place. Si vous êtes infirmier, il vaut mieux peut-être que vous ayez travaillé si vous êtes permanente, et ainsi de suite. Mais quand la crainte s'empare de chacun, c'est la preuve que le Saint-Esprit nous assiste. Et si ce soir, nous faisions des progrès dans le respect de la parole de Dieu, et si on commençait à dire, ah mais ça, la Bible le dit, c'est sérieux. Moi, je pensais autrement. C'est quoi qui est important? Ce que vous pensez ou ce que Dieu pense? Je pensais tout à l'heure dans la voiture, je pensais à Samuel quand il pleurait. Il pleurait parce que Dieu avait rejeté Saül. Est-ce que c'était normal qu'il pleure? Ben oui. Mais à un moment donné, Dieu lui arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Il aurait pu dire, non, je ne pleure plus. Dieu lui dit, arrête de pleurer. Je l'ai rejeté. Maintenant, remplis ta corne d'huile et va, et tu vas oindre là-bas avec Bethléem, le fils d'Isaïe. Ce qui est important, c'est parce que Samuel pensait, pourtant c'était quelqu'un, Samuel. C'était quelqu'un. C'est pas ce qu'il pensait qui était important. C'est ce que Dieu lui a dit qui était important. Et quand nous sommes dans une phase où nous voyons le royaume de Dieu s'étioler, quand nous voyons les églises apostates, c'est pas ce qu'on pense avec nos méthodes qui est important, c'est ce que Dieu dit. Dieu dit que si la crainte revient, le respect, la crainte c'est pas la peur, c'est le respect profond de la parole de Dieu revient dans les cœurs, eh bien nous aurons de fortes chances d'avoir l'assistance du Saint-Esprit. Les chrétiens de l'Église primitive y respectaient la parole. Et s'il est écrit « la main du Seigneur était sur eux », c'est parce qu'il respectait la parole. Ça change de Juges chapitre 2. Regardez dans le livre des Juges. On a lu tout à l'heure, la main du Seigneur était sur eux. C'est ce qui nous intéresse et c'est ce qu'on va vivre si on avance dans la vie de l'esprit. Quand vous lisez le livre des Juges, moi c'est un livre qui m'a fait beaucoup réfléchir, le livre des Juges. Je l'ai lu, je ne sais pas combien de fois, pour comprendre justement ce qu'était l'apostasie. Dans le livre des Juges, au chapitre 2, au verset 15, regardez ce qui est dit. Partout où ils allaient, alors, la main de l'Éternel, qu'est-ce qui est écrit? La main de l'Éternel était... Vous y êtes, mes frères et sœurs? Ça ne vous fait pas peine de lire ça? La main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel leur avait juré, et ils furent ainsi dans une grande détresse. Et vous lirez le contexte et vous verrez pourquoi la main de l'Éternel était contre eux. Quand un chrétien fait n'importe quoi, quand un chrétien n'obéit plus à Dieu, la main de l'Éternel n'est pas avec lui, la main de l'Éternel, elle est contre lui. On peut prendre notre texte? Oui. J'ai pas le temps, j'avais des notes là-dessus, mais on n'a pas le temps. Regardez dans Ésaïe. Ésaïe, un autre texte. Regardez, Ésaïe 63, si je ne me trompe. Oui. Là aussi, il faudrait lire tout le chapitre 63. Si demain, vous voulez prendre du temps, vous lisez et regardez ce que Dieu a fait, comment il réagissait. Ce que Dieu faisait, comment il réagissait. Et le résultat de l'affaire, regardez bien. Verset 10. Ésaïe 63, verset 10. Mais ils ont été rebelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont attristé son Esprit Saint. Il est devenu leur ennemi et il a combattu contre eux. Vous voyez? Ils aimaient Dieu. Si vous lisez, vous allez voir, ils aimaient Dieu, mais voilà, ils aimaient le plaisir plus que Dieu. Ça ne vous rappelle rien? Non? Ça ne vous rappelle pas une prophétie de la fin des temps? Que les gens, les chrétiens de la fin des temps, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Et c'est une prophétie. Et je vois que le retourne. Mais je vais juste vous laisser quelques versets. Parce que nous voulons voir la gloire de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous avez lu le livre d'Ézéchiel? Est-ce que vous l'avez lu? C'est un peu compliqué? Bon. Alors on va quand même y aller. On va lire quatre textes. Alors oui, ça vous fera travailler un peu. Allez, je vous donne du travail pratique. Comme ça, vous me ferez une prédication. D'accord? Ça vous c'est bien? Il n'y en a pas qui veulent me préparer une prédication? Alors, Ésaïe chapitre 9, Ézéchiel chapitre 9, regardez. Regardez bien ce qui se passe. C'est, bon, on va lire, il faudrait lire quand même. Alors, comment on fait? Alors, on va lire le verset 3. Si vous prenez des notes, je pense que c'est vraiment utile. Vous méditerez, vous garderez le contexte, et vous regarderez comment ça se passe. Regardez, Ézéchiel chapitre 9, verset 3. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était. Elle se dirigea vers le seuil de la maison et il appela l'homme vêtu de laine en portant l'écritoire à la ceinture. Qu'est-ce qui se passe? La gloire, où elle va? Elle est dans le temple, elle va vers le seuil de la maison. Ézéchiel chapitre 10, verset 3. Les chérubins étaient à la droite de la maison quand l'homme alla et la nuée remplit le parvis éternel d'intérieur. La gloire de l'Éternel s'éleva de dessus les chérubins et se dirigea vers le seuil de la maison. La maison fut remplie de la nuée et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de l'Éternel. Chapitre 10, verset 18. La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça sur les chérubins. Les chérubins déployèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre sous mes yeux quand ils partirent accompagnés des roues. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel de l'Orient. Et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. Ézéchiel chapitre 11, verset 22. Les chérubins déployèrent leurs ailes accompagnés des roues, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. La gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville et se plaça sur la montagne qui est à l'orient de la ville. Alors, est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? La gloire de Dieu était dans la maison. De la maison, elle est partie sur le seuil de la maison. la maison de Dieu. De la maison de Dieu, elle est partie, du seuil, elle est partie sur la porte. Et de la porte, elle est partie sur la montagne. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'à cause de tout ce qui s'est passé, la gloire de Dieu s'est fait. Vous avez compris? C'est exact. Alors pourquoi? Mais parce que le peuple péchait. Si vous revenez dans Ézéchiel chapitre 8, alors écoutez, si vous ne me faites pas confiance, lisez Ézéchiel chapitre 8 et regardez comment Dieu décrit ce qui se passe. Ézéchiel 8, verset 5. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levais les yeux du côté du septentrion. Et voici, cette idole, regardez dans la maison de Dieu, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. L'idole de la jalousie. Ils avaient mis l'idole de la jalousie dans la maison de Dieu. Vous allez me dire, mais ça ne tient pas debout. Mais vous ne croyez pas que ça peut arriver, la jalousie dans la maison du Seigneur? Est-ce que ça peut arriver? Vous lirez la suite. Franchement, vous lirez la suite. Et vous comprendrez pourquoi la gloire de Dieu s'est retirée du temple et qu'elle s'est même retirée de la ville. Parce que le peuple de Dieu péchait. Vous lirez la suite, ça fait vraiment mal au cœur. De voir pourquoi. Ézéchiel les supplie, mais non. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Alors si vous lisez, bon, après quand même, il faudrait lire, pour terminer le chapitre 43, quelques versets. Parce que qu'est-ce qui se passe au chapitre 43? Eh bien, la gloire de Dieu, elle revient. Il faut terminer par quelque chose de... Hein? Regardez. Alors, Ézéchiel 43, verset 1er, il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Voyez, verset 4, la gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Qu'est-ce qu'on voit dans le chapitre 43? La gloire de Dieu qui revient. Entre le chapitre 4 et le chapitre 43, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que la gloire s'en aille? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la gloire de Dieu revienne? Et c'est vrai que c'est une question de soif. Le Saint-Esprit peut être attristé, mais le Saint-Esprit peut revenir. Amen. Vous pouvez dire amen. Heureusement que Dieu n'est pas irrévocable dans certaines de ces choses. Le Saint-Esprit, on peut l'attrister. Le Saint-Esprit peut revenir. C'est une question d'obéissance, de foi, de volonté, de détermination. Ce que le diable nous a volé, le Seigneur, il peut nous le redonner. Mais si nous n'avons plus soif, par exemple, de lire, de prier, de servir, de témoigner, etc., nous pouvons nous découvrir ces choses. Peut-être quelqu'un là ce soir, mais moi, j'ai plus envie de lire, j'ai plus envie de prier, j'ai plus envie de témoigner, j'ai plus envie de servir. Mais oui, mais ça peut arriver. Est-ce que Dieu peut vous redonner la soif de ces choses? Ben oui, c'est pour ça. La gloire de Dieu, c'est une réalité. Alors, bien sûr, on ne va pas... Je n'ai pas le temps, mais Dieu cherche. Quand Ézéchiel, il dit au chapitre 22 que tout va mal, et il dit, je cherche parmi eux. Parmi ces gens qui n'ont pas bien du tout, Dieu cherche un homme qui se tienne à la brèche. Et même s'il n'a pas ça, pas été, Dieu, ce soir, dit, mais parmi vous, je ne vais pas chercher parmi les anges, parmi vous. Est-ce que ça vous rassure? Ben oui. On est quand même, si on n'a pas été autant, Dieu peut nous dire, mais c'est avec vous que je veux faire mon œuvre. C'est pas avec des élites qui n'existent pas, c'est avec vous. Je cherche parmi vous des hommes, des femmes qui vont se ressaisir, qui vont arrêter d'attrister le Saint-Esprit, qui vont arrêter d'être légers, qui vont s'appliquer. Et vous verrez que l'assistance du Saint-Esprit nous sera réaccordée. Il n'y a rien de pire que de vivre légèrement. J'ai beaucoup pensé à Samson aujourd'hui, parce qu'il nous a dit qu'il a flirté avec Dalila, et voilà, elle l'importunait, elle l'importunait un jour, elle lui a ouvert son cœur. Il aurait mieux fait de l'ouvrir à Dieu, son cœur, qu'à une femme débauchée. Et quand ça s'est mal passé, il était écrit, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Alors, il y en a qui diront, ouais, mais c'est pas grave, Dieu n'était pas le mignon qui fume. C'est pas avec des lumignons qui fument qu'on va voir la gloire de Dieu. On verra la gloire de Dieu avec des lampes qui brillent, avec des gens qui disent ce qu'on entend, c'est la vérité. Je n'ai pas à m'adapter avec ce que je pense, je vais m'adapter avec ce que Dieu dit. Et je peux vous dire que la crainte revient, il faut qu'elle revienne dans le cœur de chacun. Pas dans le cœur des chrétiens, dans le cœur des chrétiens et dans le cœur des pasteurs, dans le cœur des nouveaux et dans le cœur des anciens. Et si nous nous appliquons à ces choses, nous verrons que la vie de l'esprit, ce n'est pas de la théologie, que la vie de l'esprit, c'est la plus belle expérience que l'on puisse avoir. Et je ne sais pas si les jeunes, vous voulez un jour vous marier, avoir des enfants, ça vous intéresse? Non? Est-ce qu'il y a des jeunes qui veulent se marier et avoir des enfants? Non? Mais ce n'est pas une question bête, c'est sérieux. Parce que moi j'aimerais que nos enfants, nos petits-enfants, ils voient la gloire de Dieu, c'est sérieux, ce n'est pas des questions blagues. À de base, c'est des vraies questions. Est-ce que vous voulez que vos enfants voient la gloire de Dieu? Moi je veux que nos enfants voient la gloire de Dieu. Est-ce qu'ils peuvent la voir? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Voilà. Il faut travailler à ces choses. Ce soir, c'est rien du tout ce qu'on a partagé. C'est rien du tout. Mais ce rien du tout, nous veut prendre conscience qu'il n'y a aucune autre méthode que l'assistance du Saint-Esprit. On y travaille, mes frères et sœurs. Vous êtes d'accord qu'on y travaille? Mais vous verrez, le livre des Actes, lire le livre des Actes, c'est très intéressant. Lire le livre d'Ézéchiel, j'avoue que c'est un petit peu plus compliqué. Mais est-ce que ce n'est pas bien de voir que la gloire de Dieu se retire et qu'elle peut revenir? Oui, moi ça me rassure quand je vois la gloire de Dieu revenir, parce qu'ils étaient mal partis pour qu'elle revienne. Mais grâce à la patience de Dieu, à la bonté de Dieu, à la miséricorde de Dieu et au pardon de Dieu, la gloire de Dieu est revenue. Et si nous nous appliquons, si nous nous repentons, si nous savons nous reconvertir, oui, nous reconvertir, si nous savons nous humilier, si nous savons chercher la face de Dieu, eh bien la crainte reviendra. Et je peux vous dire que les réunions de prière, ce sera des réunions ferventes, bouillantes, parce que quand on est convaincu, on est convaincant. Voilà comment ça se passe dans le royaume de Dieu. C'est ce que je disais le jour de l'heure de chant. Je faisais chanter, je dis, si t'es pas convaincu, tu vas pas pouvoir convaincre les gens. Et c'est vrai. Je faisais chanter, je ne le fais plus. Je faisais chanter, je dis, il ne faut pas faire chanter comme ça, tu vas mener à la dépression de l'église. Hein? Je crois que quand on est convaincu, on est convaincant. Alléluia. Hein? Vous continuerez à prier pour moi, pour qu'on aborde ce sujet. Est-ce qu'on continue la vie de l'esprit? Ou est-ce qu'on cherche des méthodes? Est-ce qu'on cherche un milliardaire à Toulouse pour nous aider? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce ne serait pas bien qu'on ait un milliardaire dans l'église? Ça ne servira à rien si le Saint-Esprit ne nous assiste pas. Mais si le Saint-Esprit nous assiste, on risque d'être surpris, je pense, même à ce niveau. On se recueille, on demande au Seigneur de nous aider. Vous savez que ces prédications sont enregistrées, c'est important. C'est pas pour de l'étude et pas pour du business. C'est pour que les gens méditent la parole de Dieu. Notre Père, notre Dieu, nous sommes à tes pieds. Nous croyons que ce que tu as fait dans l'Église primitive, tu veux le refaire. Tu es plus intéressé que nous à ce que les Toulousains soient sauvés, à ce que notre famille soit sauvée. Tu es plus intéressé que nous, Seigneur, à ce que des pécheurs passent des ténèbres à la lumière, que des rétrogrades reviennent se jeter dans tes bras. Et nous le croyons, Seigneur, c'est par l'assistance de ton esprit, par la paix dans le cœur de chacun, par la crainte de l'Éternel dans le cœur de chacun, que tu pourras tout à nouveau nous assister. Seigneur, donne-nous cette intelligence d'être tous convaincus, d'être tous consacrés, engagés, à trouver notre place dans ton œuvre. Tu vois tous ceux qui sont sur le bord, qui sont comme des spectateurs dans un stade. Seigneur, s'il te plaît, que tous les chrétiens se sentent concernés, que ces études, que ces enseignements, que ces exhortations amènent chaque chrétien à trouver sa place et être rempli d'une pleine conviction. Seigneur, nous le croyons, que tu n'en as pas terminé, que tu cherches une église avec laquelle tu pourras travailler, avec laquelle tu pourras manifester ta gloire. Oui, Seigneur, nous te le demandons dans le bon nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen.